Distingués invités, chers collègues académiciens, chers participants venus de Paris, de Montréal et d'ailleurs, chers collègues, chers amis, je vous souhaite la plus cordiale des bienvenues au nom de tous les membres de l'Académie des lettres du Québec. Mon nom est Jacques Allard. Je suis ravi d'avoir à vous accueillir avant de laisser la parole à notre vice-président et concepteur et animateur du colloque Claude Lévesque. L'action intellectuelle n'est pas toujours facile au Québec et en général, on nous reproche, à nous, intellectuels, de ne pas intervenir suffisamment. Encore hier soir, encore il y a quelques jours, on a déploré notre manque de visibilité à tout le moins, sans jamais dire que, pourtant, les intellectuels continuent de travailler sur toutes les scènes qui leur sont naturelles, sauf que, évidemment, les médias ne sont pas là. Ils ne sont pas plus ici ce matin. Rassurez-vous, nous sommes entre nous. Vous n'êtes pas exposés à quelques dérapages médiatiques que ce soit. Nous continuons donc de travailler. Et merci d'être là, quand même assez nombreux. Vous allez voir que le groupe va s'augmenter au fur et à mesure que l'heure va passer. C'est toujours comme ça. On a l'habitude. Alors, je suis là un peu pour, vous voyez, pour faire s'écouler un peu de temps qui permette aux invités retardataires d'arriver. Donc, merci. Et puis, alors, souhaitons-nous une bonne journée en compagnie de notre animateur, Claude Lévesque.
Alors, l'an dernier, nous avions choisi comme thème « Qu'en est-il des intellectuels aujourd'hui ?» Cette année, le thème est beaucoup plus complexe qu'il ne semble à première vue. La censure aujourd'hui. On va montrer, je pense, je sais, toutes les facettes de ce thème, tous les plans à partir desquels on peut en parler. Je voudrais simplement vous mettre au courant de ce que j'ai demandé aux différents participants, c'est-à-dire l'argumentaire que j'ai proposé. Je vais le résumer assez rapidement. Ça se lisait comme suit. Jusqu'où doit-on accepter la censure et l'autocensure? La liberté d'expression est-elle illimitée? Ne souffre-t-elle sans se détruire aucune limitation? Est-il possible et souhaitable de restreindre notre espace de discussion, notre droit inaliénable de répondre et de mettre en question notre responsabilité citoyenne au point de céder sur l'intégrité de notre espace public laïque, sur les valeurs de laïcité et les droits collectifs? Ces droits que résume l'idée de liberté d'expression ne sont-ils pas toujours et en tout lieu absolument requis? Et ne constitue-t-il pas l'un des fondements de notre démocratie? Existe-t-il certains accommodements de ces droits, un en-deçà ou un au-delà? La démocratie ne doit-elle pas veiller à ce que la censure, cette critique qui dispose de la force publique légale, selon Kant, ne vienne pas entraver ou perturber le forum démocratique qui doit rester ouvert, inviolable et inaliénable? Mais y a-t-il encore de la censure aujourd'hui en Occident? La censure, en vérité, a pris de nouvelles formes. Elle se formule entre les lignes, à l'horizontale, de manière indirecte et silencieuse, mais d'autant plus efficace et répandue. Il suffit que les institutions censurantes et censurées, celles de l'État, de l'Église, de l'université, de l'école, de l'édition, de la presse, des médias, des monopoles, il reste... limite ou ignore l'étendue d'un travail, sa diffusion, sa publicité, ou qu'elle réduise les possibilités publiques d'expression, de discussion, de critique et de réponse, pour qu'on puisse en conclure immédiatement qu'un effet de censure est à l'œuvre, laissant derrière lui un pan entier de la culture, d'œuvres peut-être inestimables, laissées pour compte. Dès qu'un discours ne peut pas trouver les conditions d'une exposition publique illimitée, croit Derrida, il y a effet de censure. La nouvelle censure prend appui sur les phénomènes de masse, sur les supermarchés de la culture, dont les critères sont essentiellement économiques, la rentabilité est quantitative, les codes d'écoute, le marché, les œuvres devant obéir à certaines normes de transparence et de lisibilité, sinon elles sont exclues de la scène culturelle et deviennent quasi privées, confidentielles, à savoir ce qu'on dit qu'elles sont, illisibles, obscures, élitistes, et ce qu'on veut qu'elles soient, inaccessibles, inexistantes. Chaque fois qu'une institution médiatique se règle sur les phénomènes de marché à une échelle massive, elle censure massivement, elle sélectionne et exclut, elle dogmatise, terrorise et dépolitise. On dit couramment que la littérature est une institution qui permet à quelqu'un de tout dire et de toutes les manières possibles et impossibles. Sa mission consiste donc, partout et toujours, à franchir les limites, les interdits, à s'en affranchir, à déjouer ou abolir la censure. Certes, la littérature fait fi de toute censure, qu'elle soit politique, religieuse ou morale. La mission critique, souvent révolutionnaire, de l'acte d'écrire ou de parler, ne peut, par les interdits qu'elle transgresse, qu'attirer sur lui toutes sortes de condamnations, qu'on pense à l'arrêt de mort lancé contre Salman Rushdie. Il reste que la littérature ne peut lever la censure sur le secret sans objet et sans contenu qu'elle porte, sans peut-être le savoir et qui la porte. Un tel secret est lié à la singularité qu'elle vise par-dessus tout et que l'universalité où elle se tient ne peut que manquer, laissant l'autre, qui est tout autre, à sa solitude essentielle qui reste indéchiffrable. Dénégation du secret, la philosophie, écrite encore Derrida, s'installerait dans la méconnaissance de ce qu'il y a à savoir qu'il y a du secret et qu'il est incommensurable au savoir, à la connaissance et à l'objectivité. Comme la philosophie et la littérature, la psychanalyse se tient dans l'entre-deux, entre une censure, le refoulement, le surmoi et le reste, qu'elle s'emploie à interpréter et à lever, et une toute autre censure, incontournable, le nombril du rêve, selon Freud, qui résiste à toute interprétation, renvoyant plutôt à l'inconnu, à l'inconnaissable, à un secret à jamais secret, un secret qui n'est là pour personne, dont personne n'a la clé, qui ne m'appartient donc pas et dont je ne suis pas responsable. Une certaine irresponsabilité ou une impersonnalité loge au cœur de tout sujet, de toute responsabilité, de toute décision, de tout jugement et de toute censure. On le voit, l'au-delà de la censure n'est pas la liberté pure, sans limite, mais ce qui la rend à la fois possible et impossible. Il faudrait donc essayer de penser une censure qui soit structurante et affirmative. C'est le point de vue donc de la psychanalyse que j'ai choisi ce matin de privilégier en lui cédant la parole d'entrée de jeu. En un sens, la dimension de l'inconscient conditionne toutes les autres, comme Freud, mais aussi la pensée de la déconstruction nous l'a enseigné. Je pense aussi à Nietzsche. Aussi, en choisissant le thème de ce colloque, la censure, j'ai immédiatement pensé à René Major et à Chantal Talagran, et cela pour plusieurs raisons. René Major est psychanalyste, il est président de la Société internationale d'histoire de la psychiatrie et de la psychanalyse, il est directeur de la collection « La psychanalyse prise au mot » chez Aubier, fondateur des revues « Cahiers, Confrontation et Contre-temps », créateur avec Dominique Guichand du séminaire « Confrontation », organisateur des états généraux de la psychanalyse en l'an 2000 à Paris, où il y a eu 1000 participants de nombreux pays. Il a publié plusieurs essais chez Aubier, ainsi que chez Galilée, dont en 2003, La démocratie en cruauté, et chez Gallimard en 2006, avec Chantal Talagran, Freud, biographie, dans la collection Folio Biographie. Chantal Talagran, psychanalyste également, est membre de la Société internationale d'histoire de la psychiatrie et de la psychanalyse. Elle est auteure de nombreux articles parus dans diverses revues en France et à l'étranger. Elle a été rédactrice des cahiers Confrontation et de la revue Contretemps. Le titre de leur conférence est « Les voies de la censure en interlocution ». Je cède la parole à René Major et à Chantal Talagra.
Allons-nous pouvoir ici tout dire aujourd'hui, tout dire devant cette noble Académie des lettres du Québec, sans avoir à affronter quelques censures, tout dire jusqu'aux propos séditieux, jusqu'à l'anathème, jusqu'au blasphème?
Iriez-vous jusqu'à penser que ceux qui ont eu l'audace et le courage de soulever la question de la censure aujourd'hui et qui nous font le redoutable hommage d'inaugurer la journée, pourraient eux-mêmes poser des limites à notre liberté d'expression?
Puisque vous venez de parler de liberté d'expression, savez-vous que c'est en 1789 que ces termes acquièrent, comme tels, une référence historique précise dans une acception juridique? Tous les cahiers de doléances des États généraux réclamaient la liberté de presse. La Constituante l'inscrivit dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui stipule désormais que tout citoyen peut parler, écrire, imprimer librement.
Ne censurez-vous pas la citation? Si on se réfère à l'article complet, on peut lire. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire et imprimer librement, comme vous venez de le rappeler. Mais le texte enchaîne aussitôt, ce que vous avez omis de dire, avec une clause restrictive, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi.
La liberté d'expression contient en elle-même, il est vrai, le principe de sa propre censure. Car autrement, on n'invoquerait même pas un principe de liberté, il n'y aurait que l'usage de la langue, quel qu'il soit.
La référence à la loi impliquait qu'il y ait désormais une instance moins arbitraire que celle qui avait pu faire autorité jusque-là, puisque toute sanction encourue par l'abus de liberté d'expression, juxtaposition de termes qu'il faudra bien interroger, devra être prononcée par un tribunal.
On érigerait alors en principe qu'une justice exercée au nom du peuple soit moins arbitraire que celle qui s'arrogeait le droit divin, qu'elle émane des dieux de l'Antiquité ou des tables de la loi.
Les lois dites humaines seront-elles vraiment plus justes au regard de la liberté quand on sait que le droit est lui-même une violence qu'exercent ceux qui détiennent le pouvoir?
Dans l'Antiquité, la censure était confiée aux magistrats romains portant le titre de censeur, qui était à la fois chargé d'établir le sens, CENS, c'est-à-dire le dénombrement des citoyens et de veiller au contrôle des mœurs.
Dans la mesure où la fonction du censeur s'étendra au Moyen-Âge à l'établissement de la redevance du possesseur d'une terre au seigneur du fief, la censure a donc d'emblée une double connotation, en étant liée à la fois au pouvoir et à la morale. Toutefois, les bouffons du roi pouvaient et se devaient même de dire ce qu'il était impossible aux courtisans d'exprimer, mais c'était dans la mesure où leur impertinence restait dépourvue de toute conséquence.
Souvenez-vous que, avant que l'imprimerie permît de diffuser la pensée, le concile de Soissons en 1121 fit brûler un manuscrit du traité d'Abélard sur la Trinité parce que des copies avaient circulé sans que le pape ou l'Église les eussent approuvées. Par la suite, ce sont les imprimeurs eux-mêmes qui furent soumis à une sévère réglementation.
Après la Révolution, bien que la liberté d'expression demeurait affirmée en droit, elle fut constamment battue en brèche, soit pour des raisons politiques, comme ce fut le cas sous Napoléon, ou pour des raisons morales soumises à l'arbitraire des tribunaux, eux-mêmes sous l'emprise des dogmes de l'époque. Il ne faut pas oublier que si Flaubert fut acquitté au terme d'un procès concernant Madame Bovary, Baudelaire, lui, fut condamné pour ses fleurs du mal.
Si les œuvres d'un nouveau Baudelaire ne se heurteraient sans doute pas aujourd'hui à une telle censure, c'est bien en fonction de l'évolution des lois concernant la notion d'atteinte aux bonnes mœurs. La liberté de parole accordée aujourd'hui à l'enfant pour tout ce qui touche à la sexualité aura permis au cours des récentes décennies de révéler de nombreux cas d'inceste, d'abus sexuels, de pédophilie qui passaient autrefois sous silence. Mais cette levée d'une certaine censure aura pu aussi s'accompagner, dans certains cas, de fantasmes chez l'enfant auxquels les adultes et les prétoires auront pu accorder le poids d'une vérité factuelle entraînant les lourdes conséquences que nous connaissons.
Freud lui-même n'avait-il pas accordé le même poids de réalité à certains récits de ses patients avant de s'apercevoir du rôle prépondérant du fantasme dans la vie psychique, du fait qu'il n'y avait pas de critères permettant de distinguer au seul niveau inconscient la vérité traumatique et la vérité de l'imaginaire, et que la seconde même pouvait avoir les mêmes effets dans la réalité que la première. Dans les cas que vous venez d'évoquer, on revient paradoxalement un siècle en arrière, à l'époque où était niée l'existence de la sexualité infantile, avec ses fantasmes polymorphes et les théories qui leur sont associées quant à ses propres origines.
Si nous admettons que la vie psychique inconsciente joue un rôle déterminant dans notre activité de pensée et qu'elle occupe une place prépondérante dans l'écriture, on peut se demander ce que nous entendons lorsque nous parlons de liberté, sauf à croire encore qu'elle soit le privilège de la conscience. Nous pouvons toutefois étendre la notion de liberté à l'activité inconsciente en lui attribuant le rôle de source principale dans la création littéraire. Celle-ci s'emploierait tout autant à laisser l'activité de pensée inconsciente s'exercer dans l'écriture, en déjouant, pour une part tout au moins, les instances internes ou externes tendant à la censurer, tout en se pliant aux règles de grammaire d'une langue qui rendent cette création transmissible.
Cette liberté dont use l'écrivain, en puisant dans le trésor de ses fantasmes inconscients, est pour le moins paradoxale. Prenez l'exemple d'un romancier, ami et contemporain de Freud, encore très lu aujourd'hui. Dans sa nouvelle « 24 heures de la vie d'une femme », Stefan Zweig met en scène une dame distinguée, précocement veuve, mère de deux fils qui n'ont plus besoin d'elle, et qui, au cours d'un de ses voyages qui occupe son désœuvrement, se retrouve sans but dans la salle de jeu du casino de Monaco. Parmi les curieuses impressions éveillées en ce lieu, son regard ne peut se détacher de deux mains qui semblent trahir toutes les sensations du joueur malheureux qui, après avoir tout perdu, quitte la salle dans le plus grand désespoir et laisse soupçonner son intention de mettre fin à ses jours. Une sympathie qu'elle ne s'explique pas elle-même pousse la dame à suivre le jeune homme, auquel l'écrivain, apparemment sans intention, aura donné l'âge du fils aîné de l'héroïne. Cette dame donc suit le jeune homme dans le but de tenter par tous les moyens de le sauver. Se heurtant aux plus vives protestations de celui qui juge sa présence importune, elle parvient néanmoins à ne pas le quitter, et se voit contrainte, de la manière la plus naturelle, de partager la chambre qu'il occupe à l'hôtel et finalement son lit. Après une nuit d'amour improvisée, elle se fait donner par le jeune homme l'assurance qu'il ne rejouera plus. Elle le munit d'argent pour son voyage de retour et promet de le rencontrer à la gare avant le départ du train. Mais des hasards contraires la retiennent. Dans son désir nostalgique, elle retourne à la salle de jeu pour apercevoir avec stupéfaction, les mêmes mains à la même table. Elle lui rappelle sa promesse, mais possédée par sa passion, il la traite de trouble-jeu, de corruptrice, et lui jette à la figure l'argent avec lequel elle avait voulu payer sa rançon. Couverte de honte, elle ne peut que prendre la fuite et apprendra plus tard qu'elle n'aura pas réussi à le prévenir du suicide. Lorsqu'il fait part à Stefan Zweig de sa lecture analytique, en y voyant le fantasme d'une mère de sauver un jeune homme, un fils, des effets redoutés de l'onanisme en l'introduisant elle-même à la vie sexuelle, et dès lors l'assimilation de la mère à la putain, puis, pour le jeune homme en proie au sentiment inconscient de culpabilité, le retour à l'activité compulsive et la recherche de l'autopunition, Freud se voit confirmer que son interprétation est totalement étrangère à l'intention de l'auteur, bien que celui-ci puisse reconnaître, après coup, que maints détails du récit paraissent calculés pour en indiquer la trace secrète. La liberté de l'écrivain serait donc elle-même déterminée par un calcul inconscient que son fantasme met en scène à son insu.
En dirait-on autant pour les écrits du Marquis de Sade qui lui valurent l'embastillement pour incitation à la débauche, que le fantasme sadien participe davantage d'un calcul conscient, celui d'en finir avec la loi du dedans en mettant en œuvre tout ce qui peut lui monter librement à la tête, ne l'empêche pas de se voir entièrement pris à rebours dans l'éthique chrétienne ou l'impératif kantien. La philosophie dans le boudoir est contemporaine de la critique de la raison pratique. Le paradoxe veut que ce soit, au moment où le sujet n'est plus confronté à aucun objet qui soit aussi sujet, et cette rencontre s'érigeant en règle universelle, qu'il se heurte à la loi intransigeante. La maxime « j'ai le droit de jouir de ton corps » peut me dire quiconque, et ce droit, je l'exercerai sans aucune limite, sans qu'aucune limite m'arrête dans le caprice des exactions que j'ai le goût d'y assouvir. C'est la maxime kantienne. J'ai le droit de jouir de ton corps, et ce droit, je l'exercerai sans qu'aucune limite m'arrête dans le caprice des exactions que j'ai le goût d'y assouvir. S'autorise, cette maxime s'autorise de l'impératif de la loi morale, car c'est à la liberté de l'autre que le principe de la maxime dresse sa croix. Les droits de l'homme s'estompent devant les droits de Dieu à jouir du corps de l'homme, comme l'éprouvait dans sa chair le président Schreber dans les mémoires, dont les mémoires devaient retenir l'attention de Freud.
Nos modernes tyrans y prendront de la graine en faisant des droits de l'homme la liberté de désirer en vain. Certes, le fantasme sadien conforte-t-il la loi, mais il a aussi l'heure ou la vertu de déceler la pierre qui menace autant qu'elle fait tenir la violence du droit. Sa maxime éclaire la faille qui divise le sujet. Elle montre l'autre face de l'impératif catégorique. Agis de telle sorte que, dans ta personne comme celle de tout autre, tu uses toujours de l'humanité comme fin, jamais comme moyen, en laissant suspendu dans le vide ce que peut recouvrir le terme d'humanité.
La liberté freudienne tient d'un autre impératif, celui de se défaire de ses illusions et de se mettre en règle avec ses propres désirs. Que ce soit à propos des tabous socioculturels concernant la sexualité infantile, ou à propos de l'archéologie, de la religion et du politique. Freud ne cède en rien sur ce qu'il tient pour la vérité psychique. Il affronte à la parution des trois essais sur une théorie sexuelle la réprobation des bourgeois de Vienne qui ne le saluent plus dans la rue. Et quand il dépossède son peuple de l'homme qu'il honore comme le plus grand de ses fils, Moïse, quand il déconstruit l'élection divine du peuple juif, il rencontre la plus vive hostilité, alors que, ne reniant nullement son appartenance à ce peuple, il confesse pourtant n'éprouver aucune sympathie pour la piété égarée qui fabriquait une religion nationale à partir du mur d'Hérode et défiait les sentiments des habitants du pays. S'il se montrait infidèle à la religion de ses pères, il n'en était pas moins fidèle à la lettre du message du prophète qui ancrait sa filiation dans la vie de l'esprit plutôt que dans le fantasme de désir de domination.
Vous parlez de la censure sociale, morale, politique et religieuse que Freud affronte au nom de ce qu'il appelle la science du psychique inconscient. Dans la mesure où il a mis à nu ses propres désirs inconscients, dans l'analyse de ses rêves et de ses oublis, dont le déchiffrement constituait l'objet même de ses découvertes, il aura livré au public des éléments de sa vie intime comme aucun homme de science ne l'a jamais fait. Néanmoins, il reconnaît lui-même que certaines analyses de ses rêves ne sont pas menées à leur terme en raison d'une discrétion qu'il souhaite conserver.
N'est-ce pas dans l'interprétation des rêves que le terme de censure apparaît pour la première fois dans l'œuvre de Freud ? Ne s'agit-il pas, à proprement parler, d'une auto-censure que le rêveur rencontre au sein même de son rêve, afin que ne paraisse pas en toute clarté le désir inconscient qu'à l'état de veille, il ne saurait s'avouer.
Le retour des souhaits refoulés dans la mise en scène onirique emprunte une rhétorique qui permet les déguisements, les transformations, les retournements en leur contraire et toute autre figure de style. Le rêveur invente et pratique sa propre grammaire et une singulière tropologie.
Oui, mais les frontières entre l'autocensure et ce qu'on appelle communément la censure ne peuvent pas être aisément délimités, car la censure qui est exercée par le sujet délibérément ou à son insu n'est pas dissociable de ce qui lui vient de son éducation, de sa culture, des diverses influences qu'il a pu subir et dont il n'a pas forcément conscience comme tel. Par ailleurs, mais cette fois en toute conscience, dans la mesure où un écrivain, un poète ou un penseur souhaite transmettre des vérités qui risquent de se heurter aux opinions dominantes, à des diktats politiques ou à des attaques violentes, ils prendront les précautions que peut offrir le langage pour rendre recevables leurs révélations subversives. Plus la censure sera sévère, plus ingénieux seront les moyens de faire saisir au lecteur le sens et la portée de leur message.
Quand Freud se heurte au pouvoir politique qui s'oppose à ce que la psychanalyse soit pratiquée par des non-médecins, il construit un dialogue avec un interlocuteur anonyme, mais on sait qui il désigne au sein des pouvoirs publics, auquel il prête toutes les objections possibles pour les démonter une à une. Ainsi en viendra-t-il à démontrer, par exemple, que ce sont les médecins qui fournissent à l'analyse le plus gros contingent de charlatans, car est charlatan celui qui, tout en possédant un diplôme d'État, ne possède pas les qualités spécifiques requises pour l'exercice de cet art.
La plus grande liberté d'expression que nous connaissons est celle qu'on peut avoir au cours d'une analyse. L'analyste laisse en effet à son hôte la possibilité de tout dire et même de se laisser dire tout ce qui peut échapper à son propre contrôle, en lui faisant implicitement la promesse qu'il se laissera lui-même tout entendre. Cette hospitalité souffrira que soit exprimé l'amour, la haine et ce qu'on croit même avoir été toujours exclu de sa pensée. Elle endurera que soient proférées des insultes, des injures, des menaces à l'adresse de l'analyste ou à sa prétendue adresse. Elle supportera aussi qu'elle puisse être tue ou laissé en souffrance, sans que l'analyste ne s'arroge quelque pouvoir de censure que ce soit.
Vous voulez dire que cette hospitalité exclut toute inquisition et pourrait, à la limite, souffrir de ne rien savoir de son hôte. Si je pense à l'autre, je me censure. Et si je pense à moi, je censure l'autre. La liberté se délimite elle-même en se limitant, car il y a une liberté qui détruit sa propre liberté.
On aura pu ainsi décider, comme ça s'est vu lors de l'élection algérienne en 1992, d'interrompre le processus démocratique pour protéger ce qu'on appelle la démocratie de la venue démocratique du non-démocratique.
S'il n'est pas difficile de constater que c'est avant tout à la liberté d'expression que s'en prennent les régimes totalitaires, en usant d'une langue et d'une rhétorique qui tentent de justifier cette privation...
Freud reconnut très tôt, pardonnez-moi de vous interrompre, que dans leur tentative d'élever le peuple russe à des formes de vie meilleures, les autorités soviétiques, si elles avaient eu l'audace de le sevrer de l'opium de la religion, le soumettait à la plus cruelle des contraintes en lui enlevant la possibilité de penser librement, et que le lien de masse socialiste qu'elle s'employait à imposer par tous les moyens engendrerait des cruautés comparables à celles de l'Inquisition.
Oui, si l'option du totalitarisme quant aux libertés a le mérite d'être claire, il n'en va pas de même de la démocratie, qui, dans les formes diverses qu'elle peut emprunter, demeure toujours une promesse qui peut s'avérer prompte, comme on le voit aujourd'hui, à se transformer en menace.
Vous n'allez tout de même pas dénigrer la démocratie. Quelle que soit son imperfection, c'est le seul régime, même si le terme de régime ne lui convient guère, qui accueille la possibilité de se contester, de se critiquer, de se reconnaître perfectible. On l'a suffisamment dit à propos des États-Unis, où, à peu d'exceptions près, la liberté d'expression reste entière. La presse et le cinéma ne se sont pas privés de critiquer la guerre au Vietnam, comme ils contestent aujourd'hui le bien fondé de l'intervention américaine en Irak, même si c'est avec un certain retard que nous pouvons déplorer.
Ce retard implique que la presse exerçait elle-même sa propre censure en raison d'un patriotisme ou d'un nationalisme qui la rendait peu critique des motifs allégués. Et il faut bien le dire, là où un régime répressif impose la loi du silence, la démocratie peut instaurer le régime du « cause toujours », une censure déguisée en non-censure. Depuis le temps que les mensonges de l'administration Bush sont connus, voire que la décision d'intervenir en Irak était prise bien avant le 11 septembre et qu'elle a pour le moins donné lieu à d'impressionnantes négligences en matière de sécurité qui frôlent la complicité inconsciente, cela n'a rien changé quant à la détermination américaine de poursuivre une politique d'invasion qui fait fi du droit international et de l'opinion de l'ONU, une instance qu'elle crédite et discrédite tout à la fois. C'est une censure plus subtile, plus tentaculaire, qui se légitime au nom du droit qu'elle s'arroge d'intervenir où que ce soit, chaque fois que ses propres intérêts sont en jeu.
Cette censure fait preuve tout de même d'une certaine tolérance, puisque des écrivains, des cinéastes, des artistes, des journalistes, des savants peuvent, et s'ils le peuvent, ils le doivent, élever des protestations et même organiser des manifestations.
Oui, on aura vu de grandes manifestations dans de nombreuses villes de par le monde, réunissant des centaines de milliers de personnes qui s'opposaient à l'intervention en Irak. On aurait pu croire qu'une telle expression libre de la voix des peuples, un phénomène sans précédent, pourrait avoir un poids que n'avait pas eu le Conseil de sécurité. Et pourtant, cela n'a empêché ni Guantanamo, ni Abu Ghraib, ni des centaines de milliers de morts en Irak. Le discours de tolérance est certes préférable à celui de l'intolérance, à l'anathème, à l'excommunication, à l'exil, à la prise d'otages, mais c'est un discours profondément ancré dans le religieux et le plus souvent du côté du pouvoir. Aux États-Unis, on répète « Ne nous battons pas contre l'islam. Les trois religions monothéistes ont toujours enseigné la tolérance », ce qui est largement inexact, on le sait bien. Mais ces déclarations ont leur propre stratégie. Rassurer, diviser, obtenir le soutien dans la guerre déclarée au terrorisme international. Cela n'empêche que la dite tolérance soit assortie de la plus sournoise intolérance qui va jusqu'à la détention provisoire de centaines d'islamistes sans motif précis ni chef d'inculpation et jusqu'à la surveillance des lectures que peuvent faire les citoyens dans les bibliothèques publiques.
Vous venez d'utiliser le terme de terreur. Si ce mot a pu désigner un mode de gouvernement qui a été exercé par l'État au temps de la Révolution française, L'utilisation du mot terrorisme qui en dérive est soumise aujourd'hui à des acceptions diverses, souvent floues, vagues et imprécises. Tous les terroristes prétendent répliquer à un terrorisme d'État. Traditionnellement, la violence était revendiquée pour s'opposer à l'intérieur d'un pays, à une politique jugée injuste ou pour défendre son propre pays par des actes de résistance. Les résistants à l'occupation allemande étaient traités de terroristes par le régime nazi et par le gouvernement de Vichy. Ceux qui sont aujourd'hui désignés comme terroristes en Afghanistan et en Irak sont aussi loués, par ailleurs, comme des combattants de la liberté. Et pour nommer le noyau d'un conflit prenant des dimensions internationales, on voit juger comme terroristes ou héroïques des actions menées par les Palestiniens ou par le gouvernement israélien, selon le camp auquel on appartient. De cette instabilité sémantique, le pouvoir dominant est celui qui en use et abuse en parvenant à imposer, légitimer, légaliser l'appellation et l'interprétation qui lui conviennent, que ce soit sur une scène nationale ou sur la scène mondiale.
Ce qu'on appelle désormais le terrorisme international, dénomination incertaine où l'on aura associé des mouvements et des actions de nature bien différentes, reflète en miroir le phénomène de mondialisation et tout ce qu'il met en crise. Son application confuse de la chose qu'il promeut sous ce label et dont l'administration américaine n'aura cessé d'abuser avec la rhétorique guerrière qu'elle a développée depuis le 11 septembre, aura été relayée dans d'autres démocraties libérales occidentales qui, sans se sentir aussi menacées que les États-Unis, y auront trouvé le prétexte ou l'alibi nécessaire au développement d'une politique ultra-sécuritaire qui bat en brèche les libertés acquises. Mais surtout, ce terrorisme, certes meurtrier auquel on a déclaré la guerre, ne cache-t-il pas, ne refoule-t-il pas, ne censure-t-il pas un autre terrorisme qui laisse mourir des centaines de millions d'êtres humains du manque d'eau potable, de la faim, du sida ? Le déni d'une telle réalité n'est-il pas l'œuvre d'un calcul inconscient ou d'une stratégie plus ou moins délibérée de nature aussi terroriste?
La dite mondialisation dont on parle tant n'a donc pas lieu. Ceux qui en vantent les mérites feignent d'ignorer que jamais dans l'histoire de l'humanité il n'y aurait eu autant de personnes vivant sous le seuil de la pauvreté, autant d'inégalités sociales et économiques.
Mais une autre mondialisation a lieu. Les nouvelles télétechnologies, la télévision, le courriel, l'Internet, le téléphone portable nous informent rapidement de tout ce qui se passe dans le monde. Il n'est pas exclu que des mouvements de démocratisation récente, je ne parle pas de ceux que l'on veut imposer, aient trouvé quelque inspiration dans les images que diffusent ces technologies. Mais il est vrai qu'elles transmettent aussi le pire, des prises d'otages et des exécutions, des bombardements s'acharnant sur des populations civiles, des privations de droits et des tortures infligées aux détenus. La démocratie peut aussi montrer un visage terrifiant, terrorisant, non seulement dans ce qu'elle révèle, mais aussi et peut-être surtout dans ce qu'elle dissimule.
Je suppose que vous faites allusion à toutes ces images qu'on ne verra pas, prises par des photographes non autorisés par les forces d'occupation, des photographes eux-mêmes jetés en prison. Mais le plus terrifiant est sans doute la grande peur qui ne dit pas son nom, la terreur d'un recours éventuel à l'arme nucléaire qui vienne réactualiser les images d'Hiroshima et de Nagasaki et d'un usage qui en soit fait à titre préventif face à une menace réelle ou imaginaire imputée à un État dit voyou ou abritant des voyous. La diffusion en boucle de l'image des Twin Towers, éventrée par des avions et de leur effondrement, suivie des rumeurs d'armes bactériologiques ayant des effets à long terme, l'inlassable remémoration visuelle du traumatisme aux dates anniversaires, tente à la fois d'en maîtriser le souvenir terrifiant et de reléguer dans l'oubli les images faisant apparaître les victimes d'aujourd'hui comme les agresseurs d'hier, tout comme la date même du 11 septembre 2001, date de ce qu'on appelle aux États-Unis « a major event », rappelle et refoule à la fois un autre 11 septembre, celui de 1973, date du coup d'État au Chili, largement commandité par les États-Unis.
Si vous continuez, on ne manquera pas de vous taxer d'anti-américanisme.
Je me sens autant américain qu'européen, et il m'arrive de me sentir aussi bien arabe que juif. Si je parle de ces enchaînements de l'histoire, enchaînements discontinus d'événements souvent séparés par des décennies, parfois par des siècles, c'est parce qu'ils inscrivent des traces indélébiles dans l'inconscient des peuples, des impressions et des empreintes, de nos jours fixées par l'image, d'un indissociable mélange, je crains cette fois de m'exposer à la censure, un mélange de douleurs effroyables et de jouissances inavouables.
Freud disait bien dans sa correspondance avec Einstein que derrière les motifs avoués de faire la guerre, idéologiques ou autres, se cachent toujours des motifs moins nobles qui mêlent l'érotisme aux impulsions agressives et destructrices. On fait légaliser aujourd'hui certaines formes de torture, celles qui ne laissent pas de traces physiques, sous prétexte de la nécessité d'obtenir des renseignements. Le Congrès américain vient de laisser au président la faculté d'apprécier si des traitements infligés aux prisonniers suspectés de terrorisme constituent ou non un crime. Ces interprétations des conventions internationales auraient force de loi. C'est un net recul de l'état de droit. Quand on sait que, soumis au waterboarding, un membre d'Al-Qaïda n'a fait que répéter ce que les interrogateurs voulaient entendre en déclarant que des membres du réseau de Ben Laden avaient été entraînés en Irak à utiliser des armes biochimiques, on croit rêver en voyant l'alibi que tire Bush de ce faux aveu pour établir un lien entre Al-Qaïda et Saddam Hussein. Mourir ou mentir devient la question. Faire la vérité n'a plus le sens de la découvrir, mais de la fabriquer. Ce qui n'est certes pas anti-américain en tout cas, équivaut pour tout peuple tendant à exercer une hégémonie, c'est d'attirer la vigilance sur la logique inconsciente qui veut que la pulsion de pouvoir, de souveraineté, qui arraisonne à son service les pulsions agressives et sexuelles, ne peut, dans son exercice absolu, que rencontrer la pulsion de mort qui, de l'intérieur, la mine, la ruine et l'auto-détruit.
C'est ce que Derrida, en d'autres termes, a appelé la loi implacable qui régit le processus auto-immunitaire, un processus qui, sourdement suicidaire, s'emploie à détruire lui-même ses propres protections, à s'immuniser contre sa propre immunité. Il en a exposé les symptômes à propos du 11 septembre. La violente et spectaculaire agression vient, comme de l'intérieur, de forces qui, sans force propre, utilise une arme américaine dans une ville américaine, sur le sol d'un aéroport américain. Les pirates sont des immigrés entraînés aux États-Unis par les États-Unis, qui ont préparé le terrain en formant des gens, dont Ben Laden lui-même, pour les utiliser dans leur alliance avec l'Arabie Saoudite ou l'Irak, contre la Russie ou l'Afghanistan et contre l'Iran avant la guerre du Golfe. Tout en étant indissociable de cette première auto-immunité, les deux autres, isolés par Derrida, se font encore plus explicitement analytiques, dans les termes mêmes qui sont employés, et plus clairement analytiques du pouvoir saisi par le traumatisme. Ce que la blessure de l'événement traumatique laisse ouverte, ce n'est pas seulement la cicatrice inconsciente de la mémoire, mais seulement la terreur devant le passé, que la compulsion de répétition ne ferait que reproduire. C'est bel et bien plutôt, et surtout, la terreur devant l'avenir, un terrorisme produit par l'avenir, un traumatisme produit par l'avenir, par la menace du pire avenir. Désormais, la menace ne vient plus d'un État, comme au temps de la guerre froide où deux États puissants pouvaient se neutraliser, mais avec la dissémination incontrôlable, on le voit bien, de la puissance nucléaire, la menace totale peut venir non seulement d'un autre État, mais de forces absolument imprévisibles et incalculables, la mondialisation qui est censée soutenir l'ordre du monde est devenue elle-même auto-immunitaire. La menace qu'on voudrait, dans une boursouflure aux connotations religieuses et obscurantistes, circonscrire à un axe du mal, est en réalité devenue sans limite. Et pour reprendre les termes mêmes de Derrida, en raison de l'origine indéterminée de la terreur, de son absence de figure étatique ou individuelle, cette menace est devenue un événement de l'inconscient et pour l'inconscient. À l'échelle mondiale, est ce qu'il faudrait prendre en compte plutôt que le dénier comme tel, le refouler ou le forclore, car la dénégation, le refoulement ou la forclusion ne font que nourrir, reproduire, régénérer ce qu'elle tente de désarmer. Nous savons que la guerre au terrorisme n'a fait que multiplier dans une croissance inquiétante les actes dits de terrorisme, que ce soit en Irak, en Afghanistan ou en Palestine. Ces terreurs auto-immunitaires sont au fond la même dans la réalité perceptible et surtout dans la réalité de l'inconscient qui n'est pas la moins rebelle des réalités.
Vous avez fait allusion à un retour du religieux, un retour géothéologico-politique, plutôt machinique, dont les figures désormais mondialisées, télé-techno-médiatisées, accaparent les discours et les actes de violence des fondamentalistes, des intégristes, non-chrétiens ou chrétiens, qui sont bien au-delà des limites de la simple raison à l'intérieur desquelles Kant voulait penser la religion. Mais la même violence imprègne aussi les discours de réconciliation œcuménique, les déclarations de paix et jusqu'au discours politique dominant qui voudrait, avec le salut, assurer la santé, l'intégrité physique et psychique d'un corps sans cicatrices du temps et de la terreur dont vous parliez, un esprit sans l'angoisse dont il porterait la trace, un esprit biochimiquement apaisé, dans un horizon de rédemption, de restauration de l'indemne et de l'indemnisation. Ce sont là deux messianismes, celui de la terreur devant l'avenir et celui de l'avenir indemne. Ils se refoulent et se censurent l'un et l'autre.
Face à la montée des extrémismes qui se réclament d'une tradition religieuse, qu'ils proviennent de mouvements organisés, de réseaux incernables ou de gouvernements dont la violence est à la mesure de la menace explicite ou implicite, réelle ou imaginaire, qu'ils voient peser sur leur pays, la liberté d'expression et la censure cheminent donc côte à côte sur une crête bordée de gouffres. Ils circulent en ce moment sur Internet des pétitions visant à défendre un professeur de philosophie qui a reçu de graves menaces à la suite d'un article qu'il a publié dans le Figaro.
Si vous voulez parler de cet article, parlons-en. De l'article, mais aussi des pétitions qui défendent cet enseignant sans réserve ou avec réserve. Ceux qui le défendent sans réserve le font au nom d'une entière liberté d'expression, quel que soit le contenu des propos exprimés, et sans jugement sur le fond. L'article qui a valu à son auteur des menaces émanant d'islamistes qualifiait le Coran de livre d'une violence inouïe et traitait Mahomet de maître de haine, de pillard, de massacreur de juifs et de polygame.
Ceux qu'ils défendent sans réserve prétendent donc que la liberté d'expression est entière et indivisible, comme d'autres l'ont fait au nom de cette même liberté en publiant les caricatures du prophète parues il y a un an dans un journal danois et qui ont déclenché de violentes manifestations dans le monde musulman. Ou en soutenant plus récemment les propos de Benoît XVI qui, s'abritant derrière un empereur romain byzantin du XVe siècle, jugeait que l'islam s'accommodait facilement de la violence. Ses propos ont aussi soulevé une vague d'indignation, et contre ces protestations, on rappelle à l'envi le Mahomet de Voltaire, interdit par le ministère public de représentation au théâtre français à l'époque, mais on oublie qu'avec la complicité de quelques prélats de la cour pontificale, notre pontife de l'impiété réussit à obtenir une lettre du secrétaire du pape Benoît XIV, qu'il n'hésitera pas à falsifier, pour attiser la querelle des jansénistes et des jésuites qu'il fera tourner en sa faveur pour forcer son entrée à l'Académie. Montesquieu eut ce mot, il serait honteux pour l'Académie que Voltaire en fût, il lui sera quelques jours honteux qu'il n'en ait pas été.
Si l'on a pu être choqué par les propos de Benoît XVI, on ne le serait pas moins, sinon davantage, par une condamnation à mort que lui vaudraient ses propos. Le contexte géopolitique auquel leur aura donné le contexte géopolitique actuel leur aura donné une résonance inhabituelle. Il est vrai que depuis la première guerre du Golfe, depuis l'invasion de l'Irak et depuis le grave affrontement entre Israël et le Hezbollah, une politique américaine désastreuse n'a fait que stigmatiser le monde arabo-musulman. L'humiliation qu'on tente de faire subir à l'arabe d'aujourd'hui, consécutive aux échecs de la décolonisation et à l'avènement d'une sauvage économie de marché dont seuls les dirigeants bénéficient dans leur alliance avec les grands consommateurs de leur or noir, ne peut que le rendre nostalgique de l'époque de Maïmonide, d'Averroès, qui avait inauguré une forme de spiritualité liée à la vie de l'esprit, une tentative de concilier la foi et la raison. Mais le développement de l'islamophobie ne peut que provoquer le refuge des masses dans une certaine lecture du Coran et dans les écoles de la charia, en s'en remettant à ses chefs spirituels et politiques dont la maîtrise du verbe est de nature à leur restaurer leur sentiment d'amour-propre. C'est actuellement le cas de Nasrallah après l'aventure israélienne au Liban.
Le texte du professeur de philosophie, membre du comité de rédaction de la revue Les Temps modernes, s'adonne outrancièrement à cette humiliation, en effet, en cherchant à produire la honte d'être musulman au regard de l'Occident, dont on oublie que l'acquisition de certaines libertés auxquelles peuvent aspirer hommes et femmes du monde musulman sont d'acquisitions relativement récentes. Le texte qui a déclenché une sorte de fatwa décrit l'islam comme une religion qui, dans son texte sacré même, exalte la violence comme un devoir sacré au cœur des croyants. Haine et violence habitent le livre dans lequel tout musulman est éduqué. Cette stigmatisation de chaque croyant et de tout musulman enferme chacun d'eux dans une infamie de principe, une infamie originelle. Mahomet a certes été un prophète violent. Il y eut la guerre contre les Mécois, la guerre contre les Juifs à Médine, mais il a aussi exhorté à la clémence, à la longanimité. Ses lois furent aussi libérales et progressistes, notamment en ce qui concerne les femmes, au regard de son temps. C'est déjà au Moyen-Âge qu'on s'est forgé en Occident cette représentation d'un prophète uniquement guerrier, dans une vision chrétienne oublieuse des croisades, de l'Inquisition et de la guerre du Seigneur. Le Dieu de l'amour aurait supplanté le Dieu vengeur dans une nouvelle lecture de la Bible et de la Torah. L'interprétation traditionnelle du Coran n'a jamais aboli le verset de la tolérance au profit du verset de l'épée, ni refoulé le rayonnement du logos grec. Pour un philosophe de la révélation comme Molla Kadra au XVIIe siècle, c'est l'inadéquation de l'homme prophète à la langue du parlant, du sujet absolument supposé parler, qui suscite une exégèse infinie de la lettre. C'est une telle lecture qu'il faut favoriser si nous faisons l'effort de comprendre l'autre, le musulman, en dehors du monde de la laïcité, toute précaire, qui est la nôtre.
Je crois savoir que le mot laïcité n'existe pas dans la langue arabe. En tout cas, laïque ne peut signifier que athée ou opposé à la religion ou encore devenir comme l'autre qui est sans foi et le plus souvent sans foi ni loi. Le rapport de l'arabe à sa langue est donc essentiel. Du IXe au XIVe siècle, on a toujours considéré comme arabe celui qui excelle dans sa langue, même s'il est d'origine étrangère. Quelqu'un qui ne maîtrise pas la langue est tenu pour étranger, fût-il d'origine arabe.
Le droit de la langue est en quelque sorte prioritaire sur le droit du sol et du sang. Pour le judaïsme, c'est le contraire. La transmission par le sang est originaire et la terre promise fondamentale.
Cette distinction est peut-être trop tranchée si l'on pense à la querelle qui a opposé Gershom Scholem à Franz Rosenzweig à propos de la terre promise. C'était une histoire de langue. Alors que Rosenzweig pensait que le peuple juif peut s'approprier sans crainte la langue de ses hôtes parce qu'il ne s'identifie pas justement à la langue qu'il parle, qu'il peut donc détacher la langue hébraïque de toute condition nationale ou politique, la garder déliée de tout État-nation et la réserver à la prière, Scholem, lui, envisage que le mal de la langue, sa violence et sa folie risquent de se retourner contre ceux qui la parlent, même si, en sioniste convaincu, il veut croire que l'hébreu peut passer de la langue sacrée au langage quotidien, dans une nouvelle patrie linguistique qui identifierait davantage, sinon exclusivement, le peuple juif à la langue hébraïque. Il devait reconnaître plus tard que le messianisme sioniste, en sécularisant la langue sacrée, devait conduire à des conséquences nationales et politiques des plus dangereuses.
Le messianisme lié à la langue sacrée comporterait donc en lui-même son propre processus auto-immunitaire. Notre professeur des temps modernes, s'il s'exprime dans une langue sécularisée, ne témoigne pas moins dans ses écrits pamphlétaires de la persistance d'une violence théologique liée à la politique israélo-américaine qu'il soutient.
Une violence théologique, comme vous y allez.
En paraissant se situer à l'opposé de celle de la charia, sa violence ne fait que la reproduire en miroir, quand il resexualise la morale en proférant que l'interdiction du string cet été à Paris-Plage, je cite, « traduit une islamisation des esprits ». Quand on sait le point sensible que représente pour la pensée islamiste la question de la femme et de la sexualité, c'est vouloir ostensiblement faire honte à la honte ou à la pudeur qui n'est pas dépourvue elle-même, d'ailleurs, d'érotisme.
Si nous sommes aujourd'hui dans une virtualité mondiale de l'écrit, dans la possibilité de sa diffusion mondiale en temps réel, cela donne une lourde responsabilité aux signataires. On comprend que le web se répande en écrits anonymes, mais il faut sûrement distinguer les signataires d'une parole publique qu'il exerce dans l'ordre de ce qu'on appelle la fiction littéraire, et ceux qui le font dans l'ordre du savoir ou du témoignage, comme ceux qu'on appelle les intellectuels en général. Distinguer l'un et l'autre statut de l'écrit exige de prendre en compte l'institution et la constitution de la littérature dans son rapport à la religion et à la politique. Littérature est un mot latin qui porte avec lui toute une histoire de la latinité, de la chrétienté, du droit romain. Il a voyagé et voyage encore en empruntant toutes sortes de transports et en s'invitant dans des langues étrangères à celles de ses origines, des langues qu'il contraint à l'hospitalité. La littérature s'y retrouve parfois méconnaissable, au point d'en voir travestir le nom en litturateur. Chacun peut-il, au nom de la démocratie, faire de la littérature ce que bon lui semble?
Oui, pour le meilleur et le pire. Mais rappelez-vous, dans le respect des autres, le blasphème ne peut être lancé sans risque.
Notre condamné à une nouvelle fatwa aurait-il dû s'autocensurer pour ne pas attirer l'appel à une mortelle vengeance de la part d'un prédicateur islamiste?
Oui, mais pas pour cette raison. Je ne peux que condamner sans appel toute menace de mort proférée contre quelqu'un au nom d'une croyance religieuse ou d'une idéologie, quelque infamant que soient les propos qu'il ait pu tenir. Mais doit-on pour autant défendre la liberté d'expression quand elle est mise au service de la haine? Ce serait nous faire pour nous-mêmes et donner à ceux qui sont privés de liberté d'expression une piètre idée de la démocratie, de la laïcité et de la liberté. Ce serait dénier à la liberté d'expression toute responsabilité, toute nécessité d'avoir à répondre de ce qui la fonde.
Diriez-vous alors qu'elle n'a plus aucun contenu, qu'elle s'autodétruit dans son principe même ?
Il en irait différemment si, dans un roman, un auteur mettait dans la bouche de l'un de ses personnages les propos qui sont tenus par notre professeur. Rien ne nous permettrait d'affirmer que l'auteur les endosse. Il en serait aussi autrement s'il s'agissait de propos diffamants tenus publiquement par quelqu'un qui n'a aucune notoriété. Les médias ne s'en feraient nullement l'écho. Un écho qui, de nos jours, se répand aussitôt à la violence de l'éclair dans notre cyberespace.
La plus sérieuse pétition pour la défense de l'auteur de l'écrit litigieux émane du Manifeste des libertés. Elle ne ménage pas ses réserves, et c'est un euphémisme, sur l'auteur lui-même. Elle dénonce avec la plus grande force les menaces dont il fait l'objet en ajoutant « Bien que nous soyons en désaccord avec ce qu'il écrit, avec la médiocrité triviale de ses propos, avec ses outrances verbales en miroir avec les islamistes violents, nous appelons à défendre tout homme persécuté pour ses opinions, quand bien même la volonté de célébrité à tout prix des imbéciles n'a rien à envier aux motivations des martyrs. Beaucoup trop d'hommes et de femmes dans le monde musulman subissent anonymement censure, persécution, attentats pour l'exercice réel de leur liberté de parole pour que nous ne défendions pas inconditionnellement celui qui en use, même si c'est pour infliger des blessures imaginaires et participer à répandre la peste émotionnelle des narcissismes de masse. J'aurais préféré, et cette préférence n'est pas une simple nuance, que cette pétition s'intitulât « Contre la menace de mort » et « Pour la liberté de parole pour tous » plutôt que « Pour la défense de l'auteur » car ils sont encore nombreux, et pas simplement dans le monde musulman, ceux qui sont privés de liberté d'expression ou risquent leur vie en voulant faire connaître la vérité que s'emploie à dissimuler un régime autoritaire, comme ce fut le cas tout récemment, pour la journaliste russe assassinée, Anna Politkovskaya. Si l'on s'en tient au seul titre « Pour la défense d'eux », la pétition en question risque de ne faire retenir que la condamnation de la violence islamiste. Si les propos antisémites sont aujourd'hui légalement réprimés, contrairement à la libre expression dont ils jouissaient avant la Seconde Guerre mondiale, n'y a-t-il pas deux poids deux mesures à ne pas sanctionner de la même manière les propos islamophobes?
À une autre époque qu'il qualifiait de parodistique, Goethe caractérisait une façon de s'approprier l'esprit étranger en le transformant dans le sien, en disant que le français qui use de ce procédé de traduction adapte à son parler les mots étrangers, fait de même pour les sentiments, les pensées et même les objets. Il exige à tout prix, pour tout fruit étranger, un équivalent qui est poussé dans son propre terroir. Mais au-delà de la métaphore qu'il emprunte pour cerner un trait national aussi bien qu'un mode de transfert de traduction, Goethe tente d'atteindre, dans ce poème d'amour qu'est le divan occidental-oriental, où se mêlent sensualité et mysticisme, un dépassement de l'opposition entre deux cultures, aussi bien en littérature qu'en morale et en religion.
C'est la question à l'ordre du jour, une question constamment occultée. adapter à son parler, prendre dans sa propre langue les mots étrangers et avec eux les pensées et les sentiments qu'il transporte, est autre chose que les stigmatiser, les éloigner de soi, de sa langue, de son idiome, voire d'en souffrir ou même de les tolérer. L'accueil, l'hospitalité sont autre chose que la tolérance. L'hospitalité suppose la reconnaissance de l'autre en moi, de ma violence dans sa violence.
L'étranger lointain est devenu aujourd'hui si proche, comme un intrus, que tout semble vouloir le repousser, l'éloigner. Parce qu'il est devenu si familier, on cherche à le rendre plus étranger que jamais. Sur la crête où cheminent côte à côte la liberté d'expression et la censure, il n'y a pas que la question de l'islam qui appelle la vigilance de l'intellectuel, il y a aussi celle d'Israël. Une autre pétition circule en ce moment aux États-Unis qui concerne Tony Judd, un juif qui fut un militant sioniste dans sa jeunesse et qui est devenu très critique de l'occupation des territoires palestiniens. Ancien élève de l'école normale supérieure, il enseigne l'histoire à l'Université de New York. Il devait donner en ce début d'octobre une conférence sur le lobby pro-israélien aux États-Unis. Elle a été annulée en dernière minute sous la pression de l'Anti-Defamation League qui menaçait le conférencier, non pas de mort, mais d'une campagne de presse. Interrogé par un journaliste français, Jude déclarait « Il y a des similarités avec les récents problèmes que vous avez eus en Europe. Nous avons ici des imams juifs, mais non religieux. » Il n'est pas le seul universitaire américain à avoir été intimidé en raison d'une critique de la politique américaine au Proche-Orient ou de la défense du peuple palestinien. Le monde est actuellement sur le qui-vive. À Berlin, l'Idomeneo de Mozart est censuré à cause d'une scène où le roi de Crète, naufragé, dépose en sacrifice 4 têtes, celle de Poséidon, de Jésus, de Bouddha et de Mahomet. Le même opéra, avec la même mise en scène, avait pourtant été donné 3 ans plus tôt, sans incident. À New York, une pièce de théâtre consacrée à la militante américaine pro-palestinienne, Rachel Corrie, écrasée par un bulldozer israélien, a été déprogrammée.
Des formes plus insidieuses de censure sont en pleine expansion. Combien de critiques de livres montrent à l'évidence que les ouvrages n'ont pas été lus, qu'on en extrait une formule qui en dénature le contenu, refoule le contexte ou les nuances, là où une patiente lecture s'imposait. Combien de colloques où une pléthore d'intervenants sont réduits à caricaturer une pensée exposée en quelques minutes. Le droit de parole pour tous, s'il ne s'assortit pas d'une exigence dans son usage, produit paradoxalement un effet de censure sur le discours rigoureux et éclairé. La cacophonie impose l'inentendu et le silence.
On en vient au silence obligé. Derrida en parle dans l'entretien qu'il accordait au magazine Les Inrecuptibles peu de temps avant sa mort, après avoir signé l'appel contre la guerre à l'intelligence. Une guerre qui ne dit pas son nom, une guerre incessante qui refoule dans un espace confiné toute pensée qui ne cède pas aux facilités et demande quelques travaux de lecture. Des silences obligés pour ne pas critiquer publiquement des intellectuels médiatiques devenus des droits de l'homiste patentés. Les critiques seraient versées au crédit de mauvaises causes. Silence obligé à une certaine époque vis-à-vis d'une politique marxiste dont la critique aurait été mise au compte d'un anticommunisme aussi suspect. Réserve obligée quant à la participation à des entretiens pour les journaux qui ne cherchent qu'à extraire de vos propos quelque chose de sensationnel ou à des émissions de télévision qui ne vous laissent pas parler, vous interrompent sans cesse, exigent un oui ou un non, vous somme d'être pour ou contre, ne supporte aucune nuance, ne respecte aucun secret, aucune intimité. Nous avons vu à la télévision une émission littéraire dans laquelle tous les participants étaient nus. Au sens propre, ils faisaient semblant de jouer à la mise à nu du secret de leur écriture, mais démontraient, à leur insu, je le crains, qu'il n'y avait rien à voir, ni à entendre.
La télévision est maintenant nettement dépassée par le YouTube. Les amateurs tournent une séquence avec leur caméra ou leur téléphone portable et la mettent sur le site. La liberté d'expression audiovisuelle est entière et la censure inexistante. L'audience est virtuellement planétaire. On peut voir déjà 70 000 nouvelles vidéos tous les jours. 100 millions de clips sont regardés quotidiennement. Un amateur qui, hier, captait les lapsus, la bourde ou la bévue d'un homme politique devait convaincre une chaîne de télévision d'en diffuser les images. Aujourd'hui, aussitôt captée, la vidéo est diffusée. Quelle démonstration de pouvoir de l'image mise entre les mains de chacun. Mais tout homme public est maintenant réduit au silence dès qu'il franchit la porte de son domicile. Un consultant démocrate déclarait récemment qu'il n'y avait plus désormais de conversation privée.
Ce ne sont évidemment pas les cours donnés à Princeton ni ceux du Collège de France qu'on retrouve sur le YouTube. Autrefois, on pouvait suivre un cours de Merleau-Ponty à la télévision. Ce que démontre le YouTube est que la plus grande liberté d'expression, ouverte par les plus récents développements de la technologie, ne fait que renforcer la servitude sociale effective au point d'enfermer la jouissance dans un univers consumériste digitalisé. 100 millions de personnes jouissent tous les jours de la même chose en scandant des slogans « démocratie et liberté », « guerre contre le terrorisme ». Avec les progrès des télétechnologies qui ont parti liés à ce qu'on appelle la « démocratisation », on fait entrer chez soi en permanence l'autre, l'étranger, et l'étranger le plus lointain, le plus étrange, en l'expropriant dans cette appropriation. On le fait entrer chez soi pour le maintenir à la plus grande distance. D'où le paradoxe que rend criante l'accélération du processus technologique. Alors que chacun pourrait devenir plus sensible à l'altérité de l'autre dans une reconnaissance des singularités, on voit se développer au contraire le nationalisme des minorités, le communautarisme, l'intégrisme religieux.
Ceux qu'on entend moins, ce sont les écrivains, les philosophes, les historiens, les psychanalystes qui appellent à la plus grande vigilance sur ces questions qui prennent aujourd'hui l'ampleur d'un affrontement mondial. Non seulement à une vigilance de la conscience, mais aussi à une vigilance de l'inconscient. Leur concours est pourtant indispensable pour comprendre l'actualité dans son omniprésence et dans sa virtualité en fonction de la mémoire des peuples, des résurgences du passé, des revenants et des spectres de toutes sortes. Chaque peuple, chaque civilisation a dans son histoire générale une économie de la mémoire, une sorte de palimpseste composé de strates différentes qui se superposent, des périodes sanglantes, troubles et opaques qui ont engendré des récits épiques, des légendes, des mythes. On rappelle les pires moments comme les plus glorieux par respect pour les victimes ou pour honorer les héros. Le pire menace de faire retour et le meilleur se fait attendre.
On vient de redécouvrir l'évangile de Judas, un manuscrit en papyrus écrit en copte dialectal datant du 3e et 4e siècle après Jésus-Christ, en provenance des sables du désert égyptien. Le récit de cet évangile s'achève sur cette parole de Jésus à Judas. « Tu surpasseras tous les autres, car tu sacrifieras l'homme qui me sert d'habit. » Selon l'interprétation qui est faite de cette parole, on pourra considérer que Jésus aurait demandé à Judas de le livrer pour que l'Écriture s'accomplisse et assure la rédemption du monde. Pour d'autres, ce ne sera toujours que la version gnostique jusqu'au IVe siècle, la version des Caïnites, les héritiers de Caïn, une version qui subsistera jusqu'au IVe siècle, avant de disparaître peu à peu. L'Iscariote aurait été un membre des Zélotes qui voulait chasser les occupants romains pour des actions terroristes.
Selon Freud, l'homme Moïse serait un intellectuel égyptien qui aurait redonné vie au monothéisme au monothéisme d'Akhénaton qui avait existé dans l'ancienne Égypte avant que celle-ci ne revienne au polythéisme. Moïse choisit les Hébreux comme peuple d'adoption pour lui restituer le sentiment d'amour-propre dont il avait été privé durant son long esclavage. Mais en regard du Moïse égyptien, figure de la mémoire et de la trace de la lettre, incitant son peuple à abandonner le fantasme de domination pour accomplir plutôt des progrès dans la vie de l'esprit, un autre Moïse a existé, le Moïse madianite, un Moïse irascible et violent, promettant à son peuple de lui donner le pays où coule le lait et le miel, en l'invitant à exterminer avec le tranchant de l'épée ses habitants de l'époque. Des mémoires apparemment antagonistes existent, qui peuvent s'allier, se remplacer l'une l'autre, ou se faire la guerre entre elles.
Il peut y avoir, il y a, des résurgences dans l'actualité d'événements très anciens ou plus récents, des traces que ces événements ont laissées dans la mémoire. Les récits dont ils tissent la trame sont empreints de déformation, de transformation au gré des désirs qui les réveillent.
Comme dans notre histoire à chacun. Les fragments d'un souvenir d'enfance s'agencent dans un récit auquel se mêlent des images de rêve ou de cauchemar et des témoignages de parents qui ont eux-mêmes inscrit les souvenirs de cette enfance dans la trame singulière de leur propre histoire. La période de latence aura enseveli une grande part de mes souvenirs les plus anciens qui auront pourtant laissé en moi leurs empreintes.
Sans compter toutes les traces laissées depuis ma naissance par les discours que j'ai entendus, les scènes que j'ai vues, les livres que j'ai lus, les valeurs qu'on a voulu me transmettre, l'influence d'amis chers dont je discerne parfois les pensées, les expressions, le style même dans ce que je dis, dans ce que j'écris.
J'entends aussi plus d'une voix dans ma voix. La voix de l'autorité et la voix du désir irrépressible, la voix de la légitimation et celle de l'illégitimité. Votre propre voix que je distingue mal de la mienne, de celle que je crois être la mienne et qui emprunte souvent la langue d'un autre.
Au regard de toutes ces déterminations et surdéterminations qui imprègnent ma parole, je me demande ce qu'il faut entendre lorsqu'on parle de liberté d'expression. Quand toutes ces voix s'entremêlent, se censurent l'une l'autre, ou se laissent dire ce qu'elles se sont laissées dire.
Si nous avions parlé dans une supposée entière liberté, ce serait comme dans un rêve sans fin, dans un enchaînement ou déchaînement de mots produisant d'un discours à première vue totalement incompréhensible. On aurait dit de la pure folie.
Cela ne m'aurait pas déplu, un moment tout au moins. J'espère ne pas vous avoir censuré. J'aime parler avec vous. Je crois vous connaître. Et pourtant, il y a un secret en vous, un mystère, que je n'arrive pas à percer, qui me fascine et qui entretient sans doute notre interlocution.
J'en pense autant de vous. Mais ne croyez-vous pas au point où nous en sommes qu'il vaut mieux nous mettre au secret?
Si le droit au secret nous est encore accordé.